Dixième enregistrement, chapitre 5, intitulé « En route vers le ciel ». Tout au long de notre héritage adventiste, une affirmation d'Ellen White revient comme un leitmotiv, chargé de nos rêves d'autrefois et de nos aspirations à de merveilleux lendemains. Elle nous dit exactement ce qui est nécessaire à la préparation de son peuple pour la venue de Jésus. Nous pouvons lire cela dans Parabole à la page 69. Lorsque le caractère de Jésus sera pleinement reproduit parmi son peuple, alors il viendra le réclamer comme sien. Cette affirmation est typiquement adventiste, comme un phare. Elle éclaire les 90 dernières années, nous inspirant parfois, nous gênant aussi, nous rappelant sans cesse l'idéal de nos pionniers. Et si l'on choisit d'encore accorder crédit à Ellen White, elle relate l'un des plus grands défis devant lequel l'Église se trouve. L'un des plus grands défis. Laissons-nous transparaître la vue de Jésus en nous, ou bien raterons-nous encore une fois une opportunité et subirons-nous un autre revers tragique. Il est évident que l'histoire nous prépare à quelque chose d'énorme, si évident que même les non-croyants sentent de l'électricité dans l'air. L'économie mondiale en péril, les menaces militaires inimaginables, la montée en puissance des mouvements religieux, un système technologique tout à fait capable de réguler le commerce. Nous voyons bien là un scénario de fin des temps, et nous pourrions commettre l'erreur fatale de croire que Dieu va enfin nous délivrer de ce monde sans coopération particulière de notre part. Cette pensée fond comme neige au soleil devant les leçons de l'histoire. Plusieurs fois depuis 1844, la scène de l'histoire a été préparée pour le retour de Jésus. Cet événement, nous venons de le voir, s'est déroulé en 1857. L'histoire était prête. Le monde était prêt, le ciel était prêt, seul le peuple de Dieu ne l'était pas, et ce moment merveilleux disparut. L'occasion s'est de nouveau présentée en 1888 et a persisté durant une grande partie des années 1890. Elle progressa jusqu'à en arriver à la création des lois du dimanche qui furent largement acceptées en Amérique. Vers 1899, Ellen White vit si clairement les événements prendre forme qu'elle s'écria « Priez, mes frères, priez, comme vous ne l'avez encore jamais fait. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore prêts pour le retour de Christ. » Dans la lettre numéro 201 en 1899. Son désespoir était fondé. L'Église était sur le point de faire face au chaos de l'apostasie alpha, alors que le monde attendait, prêt, pour entendre l'Évangile. Le peuple de Dieu tomba dans une controverse d'identité personnelle, des disputes doctrinales, des hérésies qui séparèrent le fondement même de l'adventisme, des attaques contre le sanctuaire, la perte de certaines de nos plus brillantes lumières. Ce faisant, nous perdîmes aussi le sanatorium de Battle Creek, cette institution phare du message de santé adventiste. Un autre moment merveilleux fut raté, et le XXe siècle arriva comme un rouleau compresseur, avançant par monts et par veaux entre dépression économique et guerre, jusqu'à ce que le ciel d'Hiroshima s'embrase et qu'une immense terreur se saisisse de l'humanité tout entière. Un nouveau siècle touche à sa fin. De nouveau, dans l'histoire, se dessine le schéma classique d'une fin des temps bien caractéristique, et le diable semble avoir bien su tirer les leçons sur la manière de nous priver d'une occasion favorable, car dans nos vies, nous retrouvons ce modèle trop familier de nos échecs passés, le matérialisme, la négligence dans l'accomplissement du travail que Dieu nous a confié, la conformité au monde, même les conflits théologiques sur les vérités bibliques les plus simples, et tout ça alors que le monde est prêt à les écouter. Prêt pour notre réforme sanitaire, si prêt que Nathan Pritiken a réussi à faire de ce message un succès national en Amérique. prêts à reconnaître haut et clair que l'esprit de prophétie s'est bien manifesté dans nos rangs, prêts pour la seule chose qui pourrait ramener la stabilité dans notre société en perte de repère, l'obéissance personnelle aux lois de Dieu. Il est grand temps pour nous de montrer dans notre vécu l'image de Jésus. Ce qui nous ramène à cette grande question. Sommes-nous d'accord pour laisser Jésus agir en nous? Sommes-nous prêts pour un modèle adventiste centré sur la croix et qui voit dans le calvaire non seulement l'effacement de nos péchés, mais aussi l'espérance de la victoire? Voici ce que l'on peut lire dans « Message à la jeunesse » à la page 40 sous la plume d'Ellen White. « Plus grand que le plus grand des idéaux des hommes est le projet de Dieu pour ses enfants. La sainteté, le caractère divin est le but à atteindre. Il n'y a pas de plus grand désir pour Christ que de voir ses agents terrestres remplis de son esprit et de son caractère. » Ces mots résonnent depuis les temps anciens de l'adventisme, décrivant le type de peuple que Dieu attend pour la fin des temps, capable de témoigner de manière effective dans un monde en crise, suffisamment stable pour affronter la fin du temps de probation. Le fondement de cette théologie exige une qualité de vie très élevée de la part des adventistes. Et là se trouve le problème. Notre expérience nous prouve qu'une telle qualité de vie est difficile à atteindre. Lorsque nous faisons une rétrospective sur nos vies, nous avons tendance à oublier le souvenir de nos échecs et même parfois nous nous demandons s'ils ont bien existé. Découragés, nous aurions tendance aussi à nous tourner vers une théologie qui offre une porte de sortie plus facile et plus simple à une courte encablure de la victoire sur le péché. Si nous voulons bien être honnêtes avec nous-mêmes, il est probable que la plupart d'entre nous ont une histoire semblable à celle qui suit à raconter. Une éducation religieuse adventiste au cours de laquelle on nous a clamé haut et fort des normes de vie exigeantes à la table familiale et au collège, et nous avons grandi en ayant de nous-mêmes une image de vainqueur. Et pour encore être honnête, au fond de nous, ce défi trouvait un certain écho. Dans les idéaux, il y a quelque chose qui fait appel à notre intelligence et à nos sentiments. Les hommes politiques le savent bien. John Kennedy en donne l'une des meilleures illustrations lorsqu'il appelle les Américains à servir le pays plutôt que d'être servis par lui. Mais l'adventisme est plus qu'une simple formule qu'on applaudit et qu'on oublie. C'est un système théologique qui soumet nos vies à un examen constant et qui use d'indicateurs détectant si nous nous éloignons, de manière si infime soit-elle, d'une ligne de conduite tellement juste que Jésus l'a appelée la voie étroite. Ayant adopté comme norme de vie la loi de Dieu, nous découvrons qu'elle est également un miroir qui révèle, avec une clarté désespérante, nos propres imperfections de caractère. Plus on s'approche de Jésus, plus on les voit. Et parfois, lorsque nous chutons, nous pouvons nous décourager. Si la vie chrétienne mène à la victoire, alors pourquoi rechutons-nous sans cesse? Et c'est vrai, pourquoi péchons-nous? Je peux citer deux raisons au moins qui se trouvent dans la parole de Dieu. Nous péchons soit parce que nous croyons avoir raison, soit parce que cela nous plaît. Laissez-moi vous le montrer. Ce jour fatal où le péché est entré pour la première fois dans le monde en Éden, Ève s'est trouvée devant une expérience nouvelle, étrange et fascinante. Lucifer, sous la forme d'un animal familier, lui a présenté un raisonnement dont nous ne sommes toujours pas à l'abri de nos jours, un exercice intellectuel où il lui demandait de réinterpréter les paroles de Dieu. Et il dit à la femme, « Vraiment ?» Dieu a-t-il dit, Genèse 3.1, remarquez là une chose intéressante. Satan ne fait pas peur à Ève en affirmant que Dieu n'existe pas. Il n'éveille pas non plus ses craintes en lui disant qu'elle n'a pas pu entendre Dieu parler ou, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, qu'elle n'a jamais lu la Bible. Son attaque de la parole de Dieu est beaucoup plus subtile. Il lui demande de revoir cette parole, de la reformuler, et il lui donne des arguments apparemment logiques et irréfutables pour prouver ce qu'il avance ensuite. Il est évident qu'il ne peut pas avoir dit cela. Regarde-moi, je ne suis pas mort. En fait, j'ai même atteint un niveau de connaissance des plus élevés. Détrompe-toi, Ève, et reconsidère ce que Dieu a dit selon les nouveaux critères que je viens de te donner. Ève fut alors devant un débat intérieur majeur. Son intelligence extraordinaire, fraîchement sortie des mains de Dieu, se trouvait confrontée à une affirmation que son honnêteté intellectuelle devait admettre. L'existence d'une preuve apparemment claire, contraire à ce qu'elle croyait être la vérité. Face à cette attaque, elle n'avait que sa foi à offrir en contrepartie. Elle ne s'en servit pas. Ève, dont le patrimoine génétique engendrerait un jour un Albert Einstein, trébucha devant cette attaque. Elle pécha parce que ce raisonnement lui semblait correct. Adam la suivit de peu, mais pour une raison différente. Lorsqu'il la vit revenir, il comprit immédiatement d'où elle revenait et où elle allait. Elle se retrouvait sur le bord d'un abîme appelé la mort, cet inconnu effrayant et mystérieux dont elle ne pourrait jamais revenir et vers lequel il ne pourrait pas l'accompagner, à moins que lui aussi n'entre en rébellion. Il y avait en lui une telle peine que le mot « deuil » ne suffit pas pour exprimer son ressenti. Lui aussi voulut pécher, non pas parce qu'il pensait que c'était bien, mais parce que ne pas pécher lui causait trop de souffrance. Pour le dire autrement, il pécha parce qu'il se sentait mieux en péchant plutôt qu'en résistant à la tentation. Et la race humaine fut entraînée dans une véritable spirale infernale, et sans l'intervention du ciel, il n'y avait aucune échappatoire. Quelque chose d'étrange et de surnaturel enveloppa leur vie. Comme Lucifer, ils avaient essayé de tirer du système davantage que ce qu'ils pouvaient y apporter, un statut divin comme celui que recherchent les gens qui n'ont pas, contrairement à Dieu, le pouvoir de donner la vie. Au lieu de réussir grâce aux bénédictions que Dieu leur accordait, ils cherchèrent à tirer par eux-mêmes profit du système, et ce faisant, rencontrèrent sur leur chemin un étrange imposteur appelé mort. Deux manifestations du péché, deux causes, un même résultat. Une personne pécha parce que cela lui semblait logique, l'autre pécha parce que cela lui semblait bon. Et tous deux reçurent la mort en cadeau. Et tous deux moururent parce qu'ils écoutèrent leurs émotions humaines au lieu de l'absolu éternel appelé volonté divine révélée. À partir de cela, je pense qu'il faut tirer une règle de conduite universelle. Au bout du compte, nous péchons parce que nous choisissons de suivre nos émotions plutôt que des principes. Il y a quelques mois, j'étais à bord de mon avion au-dessus de la Californie. La soirée avait été orageuse et la nuit tombée, en ne laissant deviner que les lumières dispersées de quelques villes. Les vestiges de quelques gros nuages planaient dans le ciel et de temps en temps, j'en traversais un. Sans avertissement, la vitre du cockpit se brouillait, masquant ma vision. Immédiatement, mes yeux se tournaient vers les instruments de bord. 9 petits cercles lumineux qui me disait si j'étais bien sur ma route, bien horizontale, et si tout fonctionnait correctement. Quand on est aux commandes d'un avion, il peut se passer un étrange phénomène appelé vertige qui peut affecter les pilotes qui perdent le contrôle visuel de l'horizon, incapables de se baser sur des repères visuels pour corriger leur niveau. Les pilotes peuvent rapidement perdre conscience de leur route de vol. Le résultat est généralement une descente en spirale mortelle que l'on appelle la descente vers la tombe. Donc mes yeux se tournèrent avec empressement vers les instruments pour vérifier où j'en étais. Étais-je encore de niveau, dans la bonne direction, à la bonne altitude? Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Quelle ressemblance entre mes instruments de bord et la loi de Dieu! Quelques compteurs examinant chaque donnée de mon vol me disant si j'étais dans la bonne direction. Quelques règles examinant chaque action de ma vie et m'indiquant si j'étais spirituellement sur la bonne voie. Plus mon expérience de pilote se renforce, plus je reconnais rapidement les premiers signes de danger, et je considère les indications de ces instruments non avec colère, mais avec gratitude. Ils sont des liens qui me relient à la vie, et plus je m'aperçois que je m'approche de Jésus, plus la loi me révèle mes imperfections. Mais est-ce que j'accueille toujours bien ces informations? Ou bien voir ma vie telle qu'elle est réellement n'éveille-t-il pas en moi une sorte de rancœur? N'y a-t-il pas là quelque chose d'étrange? Un pilote exige des informations lui permettant d'améliorer sa situation. La perte de l'un ou l'autre de ses instruments peut entraîner de sérieuses poussées d'adrénaline. À l'inverse, il est fréquent de voir les chrétiens tenter d'ignorer le tableau de bord qui peut les conduire à destination en toute sécurité, passant outre les règles externes absolues et faisant confiance à leurs émotions. Dans les airs, nous exigeons des données essentielles et vitales sur notre situation. Dans la vie, nous les rejetons. Donc il semble raisonnable d'affirmer que si nous voulons affronter le problème du péché avec succès, il nous faut d'abord reconnaître la nature de notre ennemi ainsi que la raison qui nous pousse à pécher. Je suis persuadée que l'échec est dû à ce que nous laissons nos actions être gouvernées par les émotions plutôt que par les principes. S'il en est ainsi, la première étape vers la victoire du chrétien consiste en un acte de volonté délibéré, la décision de détrôner les émotions et de leur substituer quelque chose de meilleur, un absolu éternel appelé volonté divine. Et là, l'adventisme offre aux chrétiens l'un de ses plus forts éclairages, plein de défis et de promesses à la fois. Cet absolu éternel est la loi de Dieu avec ses 10 instruments de bord et pas seulement 9. Mais si nous nous en tenons là sans rien ajouter, nous sommes devant une épreuve des plus difficiles, voire un échec, comme Paul l'a brillamment décrit dans Romains 7, versets 23 à 25. Nous lisons ces versets. « Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Paul avait une réponse. « Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur !» Il a trouvé en Jésus-Christ la solution à ce problème insoluble, et il a poursuivi avec ce merveilleux chant de victoire dans Romains 8, versets 3 à 4. « Dieu a accompli ce qui était impossible par la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine, en envoyant son propre fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En d'autres termes, une fois le problème identifié, utilisons la même solution que celle découverte par Paul. Nous autres, êtres humains, sommes capables de percevoir clairement les problèmes, mais par la suite, pour les résoudre, nous suivons des sentiers détournés. Les sentiments humains doivent être mis en second plan, mais si nous affrontons cet immense défi par nous-mêmes, alors nous sommes condamnés à une vie de frustration, au cours de laquelle, comme un arc-en-ciel magnifique qu'on voit mais qu'on ne peut jamais atteindre, les lois divines nous semblent irréalisables, transforment nos rêves en mirages et nous mènent à un tel découragement que nous avons envie de tout abandonner.